Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Le Royaume du Congo, une nouvelle histoire. Le Royaume du Congo, ce grand royaume dont on sait que il a été au départ basé sur les territoires actuels des deux Congos, Kinshasa-Brazzaville, mais aussi de l'Angola, et certains disent que peut-être une partie du Gabon a pu faire partie de son espace. C'est un royaume dont l'histoire apparemment était connue relativement tôt, notamment parce que dès le contact avec l'Occident par l'Atlantique, à la fin du XVe siècle, il y a eu beaucoup de textes, parce que ce royaume a connu une effervescence politique, religieuse, sociale très très importante. Cette connaissance s'est beaucoup développée à la suite du livre publié à la fin du XVIe siècle par Pigafetta, description du royaume du Congo et des contrées avoisinantes. Donc toute une tradition d'historiens, qu'ils soient des missionnaires ou qu'ils soient des laïcs, finalement a constitué une histoire qui aujourd'hui est remise en question. Elle est remise en question à la fois par rapport à ses origines, à la manière dont il s'est constitué, remise en question aussi par rapport à son organisation territoriale et notamment par rapport à la question centrale pour tout État, la question des relations entre le centre et les périphéries. Nous avons avec nous, au micro de Mémoire d'un continent, un jeune docteur. Il vient juste de soutenir sa thèse à l'université de Gand. Il est au début de sa trentaine, donc c'est un jeune chercheur qui va bientôt enseigner et former des étudiants à partir de ses propres recherches. Ses recherches personnelles font partie aussi d'un projet collectif développé à partir de l'université de Gand et d'autres universités belges, projet qui s'appelle Congo King, dont nous avons eu l'occasion de parler dans une précédente émission. Igor Matonda Sakala, bonjour.
Bonjour.
C'est donc vous l'auteur de cette thèse, dont on espère qu'elle sera publiée bientôt. Qu'est-ce que vous avez voulu remettre en question par rapport à l'histoire que Georges Balandier, des tas de gens ont écrit? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. C'est sur quoi? C'est sur à la fois la chronologie du royaume, l'organisation de l'espace, les relations entre économie, politique et langue, disons économie, politique et culture. Et quels sont les points qui vous paraissaient problématiques quand vous avez commencé cette recherche il y a quelques années?
De prime abord, je voudrais dire les points les plus problématiques dans la thèse étaient du point de vue de l'organisation de l'espace. La rivière de l'Inkissi et son bassin étaient considérés comme une frontière la plus orientale du royaume Congo. Et de ce fait, toute une région entre l'Inkissi et la rivière Congo était de fait exclue comme étant des territoires conquis simplement après le XVIe siècle au sein du royaume Congo. Donc il m'a fallu déconstruire en fait cette opinion-là, et c'est tout l'intérêt de ma thèse.
Alors, ce travail que vous avez fait, vous l'avez mené à partir de la combinaison de plusieurs démarches, celle de l'historien que vous êtes de formation, celle de l'archéologue, puisque vous avez mené, vous allez nous dire comment vous avez fait, des enquêtes de terrain de type archéologique, et aussi, quand même une pratique de la linguistique, puisque le projet Congo King articule histoire, économie, linguistique, archéologie. D'ailleurs, l'archéologie, en Afrique, on en dit pas beaucoup de bien parce qu'on pense que c'est un métier aride, un métier difficile, un métier qui coûte cher puisqu'il faut résider dans des lieux. Combien de temps avez-vous mis sur le terrain et avec quels moyens?
Le projet a duré 4 ans, mais sur le terrain, nous avons fait à peu près 2 ans et demi de terrain pendant l'été au Congo.
Et comment ça se passait sur le terrain? Vous étiez seul, accompagné des gens, les rapports avec les villageois, enfin les gens. Comment concrètement travaille un archéologue dans une région qui est une région de forte densité?
Ce n'était pas facile. D'abord, j'étais accompagné avec des collègues du projet, des archéologues, et parfois aussi avec un linguiste. Ce n'était pas facile, d'autant plus que l'archéologie au Congo, elle n'existe pratiquement pas. Il y a le feu, le professeur Mouya qui venait de décéder l'année passée. Et en dehors du directeur adjoint de l'Institut des musées nationaux du Congo, il n'y a pratiquement pas d'archéologues. D'emblée, comme le Congo, les archéologues travaillent, on fouille au fait le sol, on fait des excavations, et les villageois pensaient toujours que nous sommes venus pour chercher des mines ou des minerais en fait. Et leur expliquer qu'on était obligé de fouiller le sol, ce n'était pas facile. il y avait beaucoup d'appréhension de leur part.
Et par exemple, lorsque vous fouillez une région où des gens ont été enterrés dans le passé, comment ça se passe? Les gens acceptent, vous laissent faire, il n'y a pas d'interdit sur certains lieux?
Il y a des interdits. On a eu des problèmes pour la capitale de la province de Nsundi, Mbatha-Nsundi, où il y a eu beaucoup d'échauffourées. Par contre, plus au sud, vers la frontière avec l'Angola, vers la cité de Mugumbata, près de Kimpango, là par contre, le chef du village, qui est le duc du village, était assez... il est assez compréhensible, il nous a facilité la tâche.
Quand on est un jeune chercheur, qu'on travaille sur un sujet apparemment connu, hein, avec des auteurs qui ont un grand nom, et qu'on n'est pas d'accord avec eux, hein, parce que on a trouvé des sources, des matériaux, on a travaillé pour voir que ce qu'ils ont dit, c'est pas tout à fait vrai. Comment ça se passe? Vous vous sentez gêné ou vous pensez qu'au contraire, l'audace et la fougue de la jeunesse vous poussent à aller de l'avant parce que vous apportez réellement quelque chose de nouveau?
Je peux dire que de ce point de vue-là, j'ai été facilité quand même par un des auteurs, un professeur américain. Je remettais en cause beaucoup de ses idées, de ses hypothèses. Il était assez accessible, bien qu'il n'acceptait pas certaines de mes opinions, mais il était très ouvert. John Thornton de la Boston University.
Oui, John Thornton est un nom connu aujourd'hui de tous ceux qui travaillent sur l'histoire de l'Afrique et pas seulement du Congo. Et évidemment, les historiens apprécient que ce qui est considéré comme acquis soit de temps en temps remis en question. Hein. C'est comme ça que les connaissances scientifiques se développent. En lisant votre thèse, dont on souhaite que ça devienne un livre de bientôt, on est frappé par le fait que grâce à l'archéologie et avec la combinaison de l'apport des linguistes, vous arrivez à faire remonter la chronologie dans la longue durée, comme on dit. Vous remontez presque au début de notre ère pour expliquer, au fond, le processus à la fois économique, démographique et politique de la formation de cette région dans le cadre du Royaume du Congo. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe? Qui a commencé? Où? Est-ce que la démographie? Est-ce que l'économie? Est-ce que la santé? L'environnement ont joué un rôle important? À quel moment et avec quelle coupure?
Je dois d'abord dire que du point de vue, il y a encore des biais, il y a encore des trous noirs dans cette reconstruction en fait de l'histoire du Royaume Congo. La linguistique a apporté un élément crucial, c'est qu'à partir des données linguistiques, on a pu montrer que dans cet espace, il y a une nouvelle organisation qui est en train de se dérouler, liée à un terme spécial, Vata, qui désigne des villages. Et les modes de production est basé sur l'agriculture à un moment donné entre le premier millénaire de notre ère. Et c'est ce terme-là qui va se développer. Ensuite, il y a un autre terme, le terme Mbanza, qui renvoie à l'urbanité. Et donc l'urbanité existait déjà au sein du Royaume Congo et avant le Royaume Congo.
Et donc dans la vallée de Linkissi, il y a une densité démographique importante?
Oui, c'est les conclusions auxquelles je suis arrivé. En montrant que les densités, elles sont aussi de fortes densités, et elles étaient là déjà depuis l'époque du Royaume Congo, et bien avant le Royaume Congo. D'autant plus que pendant le Royaume Congo, nous savons tous qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu des guerres civiles, il y a eu une dépopulation importante de la population de la région, et donc ces fortes concentrations de population sont antérieures à la naissance du Royaume Congo.
Et donc vous expliquez aussi que la région a été frappée par à la fois des épidémies et des endémies relativement importantes qui pourtant n'ont pas affecté la densité de la population, au contraire.
Non, elles n'ont pas affecté la densité de la population, mais du moins la population s'est quand même réduite. Et les zones de forte concentration les sont restées jusqu'au XXe siècle.
Quand vous prenez la linguistique, c'est la linguistique historique que vous faites?
Oui, la linguistique historique.
Et alors, par rapport à ces mots Vata, Mbanza, quels sont les termes qui leur sont associés, par exemple le mot Vata que vous évoquez, pour montrer qu'il y a une évolution successive?
Le terme Vata actuellement, qui veut dire village dans les différents parlers Kikongo de la région, est issu d'un verbe pata, qui veut dire cultiver, donc cultiver la terre, biner, et c'est lié à l'agriculture. C'est à partir de ce terme-là qu'il y a eu glissement sémantique jusqu'à donner le sens de village.
Certains chercheurs ont expliqué que cette région a été incorporée plus tardivement, disons après la formation du royaume. Vous expliquez que elle est là dès le début du royaume. Avec quels arguments?
D'abord, l'argument, c'est... Il faudrait savoir que c'est d'abord la carte de Pigafetta. Vous avez souligné que c'était un grand auteur de la fin du XVe siècle qui a écrit un livre assez fabuleux. Il avait produit une carte qui montrait, qui identifiait en fait la frontière orientale du Royaume Congo à la rivière Inkissi. J'ai essayé de montrer qu'il y a eu beaucoup d'éléments erronés dans cette interprétation de sa carte. Et en même temps aussi, en partant de la déconstruction des titulatures des rois, j'ai montré que la frontière du Royaume Congo était déjà au-delà de la rivière Congo, donc vers la rivière Wamba. Et cette région du Congo et du Kwilu était complètement intégrée au sein du Royaume Congo, dès le début de la formation de ce royaume.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance, tant il est vrai que la terre ennoblit toujours l'homme qui sait lui confier ses peines.
Je suis avec un jeune historien et archéologue, Igor Matonda Sakala, pour parler d'un travail qu'il vient de réaliser, sa thèse de doctorat, consacrée donc à l'histoire du Royaume du Congo, à laquelle il donne véritablement une impulsion nouvelle. Alors, par rapport à ce projet que vous avez réalisé, vers quelle direction va-t-on aller maintenant? Est-ce que cette histoire politique très très complexe, puisque le royaume a été en contact avec le Portugal dès la fin du XVe siècle, avec toute une série de mutations plus ou moins importantes, dans quelle direction pensez-vous qu'il faut aller maintenant?
On a juste abordé la partie orientale du Royaume Congo. Effectivement, le sud du Royaume Congo, il peut y avoir encore des éléments assez importants, ainsi que le nord, le sud du Gabon. Mais du point de vue principalement de la frontière orientale, il y a encore des recherches importantes à faire, parce que par exemple, on sait que l'industrie textile a été l'un des moteurs du développement du Royaume Congo, et cette zone-là, on n'a pas développé assez pendant nos recherches cette thématique-là. Pour l'instant, le futur, ça serait de faire des analyses linguistiques sur des termes liés à l'industrie textile, ainsi que des recherches et des fouilles archéologiques plus poussées entre la région du Kwango et le Poul, ainsi que l'est de la rivière Inkissi.
Là, en parlant de l'industrie textile, vous touchez une question importante, qui est la question de l'économie. Il faudrait en parler un peu, parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas historien, qu'on ne connaît pas ce passé très ancien, on a l'impression que les gens vivaient dans les villages, donc les fameux Vata, alors que vous montrez qu'il y a des villes, Mbanza, et du coup, on peut penser qu'il y a une circulation importante de biens, qu'il y a des supports monétaires pour autoriser ces échanges. L'archéologue a ceci de particulier qu'il n'est pas seulement en contact avec des textes ou avec des traditions orales, il est en contact avec la terre et avec ce qu'on trouve. Vous, donc, ce que vous avez trouvé donnerait quelle image de cette économie?
Sincèrement, les travaux sur cette question sont encore au début. Je ne peux apporter pas d'ample précision. Il faudrait dire qu'au sein du Royaume Congo, il existait une monnaie en raffia. Et entre le Royaume Congo jusque dans la région de Tanganyika, le tissu en raffia a servi de monnaie. Et donc c'était un objet utilisé comme monnaie dans tout cet espace-là.
Donc du coup, ça veut dire que de l'océan Atlantique jusqu'au Tanganyika, donc à la frontière aujourd'hui du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie, ça fait un très grand espace économique.
Oui, ça fait un très très grand espace économique, et il faudrait essayer de reconstruire les réseaux de communication, les réseaux commerciaux de tout cet espace-là.
Dans les études sur l'histoire du Congo, on insiste beaucoup sur la rencontre avec le christianisme à la fin du XVe siècle, la conversion ou le passage ou l'adoption du christianisme par le roi qui était là, Nzinganku, qui est devenu le premier roi chrétien de l'Afrique centrale. Est-ce que dans vos fouilles, dans cette région qui est à l'est du royaume, est-ce que vous trouvez aussi des traces qui pourraient donner une idée de la spiritualité de ces gens?
Oui, bien sûr. On a trouvé beaucoup de vestiges liés à la chrétienté, surtout des croix dans les tombes, qui montraient que les Congos, à cette époque-là, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, étaient vraiment, ils avaient incorporé beaucoup de signes de la chrétienté dans la société.
Maintenant, alors que vous avez établi tout ça, quel est le projet futur? Vous allez, j'imagine, devenir enseignant dans une université. J'espère que ça sera une université africaine, puisqu'on a besoin de jeunes chercheurs, ce qui ne vous empêchera pas de sortir de temps en temps. Comment est-ce qu'un jeune chercheur comme vous envisage la suite de ses travaux?
Dès le début de ma formation, en fait, je n'avais jamais eu l'intention de rester ici en Europe. Donc, c'était toujours de rentrer au pays pour faire bénéficier mes compatriotes de l'expérience que je viens d'avoir ici. Et les ponts ne sont pas coupés parce qu'avec l'université, avec l'ULB ou le musée de Tervuren, on est en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut monter des projets pour continuer en fait dans la même perspective.
Ayant étudié la région du fleuve Inkissi, j'imagine que vous allez continuer sur la totalité des provinces de l'ancien royaume du Congo.
Pour l'instant, c'est donc la partie orientale, essayer de montrer la jonction entre la partie orientale ainsi qu'au-delà de la Kwango, mais il y a aussi la partie du nord de la ville de Kinshasa, pour essayer de voir comment est-ce que les choses se sont structurées dans l'espace, dans la longue durée.
Si vous élargissez ainsi les problèmes, ça veut dire que en allant vers l'ouest, ça vous donne un grand espace qui va de l'Atlantique au moins jusqu'au fleuve Congo, avec des populations dont certains disent qu'elles sont différentes les unes des autres, dont d'autres disent qu'elles ne sont pas aussi différentes que cela. Ça, c'est l'une des perspectives. L'autre perspective, peut-être vers le sud, l'Angola est en train de se battre pour inscrire Mbanza Congo, donc la capitale de ce royaume, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous envisagez aussi des collaborations et de quelle nature avec cette partie du royaume qui est aujourd'hui en Angola?
J'ai été invité lors du colloque à Ouidje par le professeur Manzambi pour essayer de parler au fait de... Parce qu'il n'y avait pas que Mbanza Congo comme capitale, comme ville à l'époque du royaume Congo. La province de Zombo, avec leur capitale Mbanza Zombo, était aussi organisée. C'est un type d'urbanisme au fait assez ancien. Et effectivement, cette région-là est méconnue archéologiquement et ça serait vraiment intéressant de pouvoir faire des jonctions avec le sud, donc le nord de l'Angola.
Peut-être une dernière chose, Igor Matonda Sakala, vous êtes passionné par l'archéologie et par l'histoire, alors qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, on a l'impression que ces études fondamentales ou sont délaissées ou ne reçoivent pas tous les moyens dont elles auraient besoin pour se développer. Un jeune comme vous maintenant, les vœux devant ces possibles difficultés sont lesquels?
Il faut d'abord tout faire pour que les partenariats entre les universités du Sud et ceux du Nord puissent perdurer et essayer de créer aussi des passoires ou des couloirs entre les différentes universités du Sud, entre par exemple l'université de Kinshasa avec l'université et les universités d'Angola. Je pense que ce sont des perspectives qu'il faut essayer de mettre en avant pour essayer de développer l'archéologie et la linguistique africaine ainsi que des champs de la recherche en histoire assez spécifiques.
Votre thèse de doctorat a été soutenue il y a quelques jours à peine. Comment se sent-on quand on devient docteur après avoir travaillé pendant si longtemps sur une thèse dont visiblement on ne voyait pas la fin? Vous y êtes maintenant. Comment se sent-on?
C'était le 27 avril que j'ai défendu ma thèse. Je ne sens pas de différence. Je pense que je suis un peu fatigué et il me faut beaucoup de repos. Mais c'était pas une finalité, en fait. Ça m'ouvre d'autres horizons et le travail de vrai chercheur ne fait que commencer, en fait. À mon avis, c'est le sentiment que j'ai.
Et l'idée de réunir autour de vous de jeunes qui n'y connaissent rien, ni à l'archéologie, ni à la linguistique, ni au traitement des traditions orales, ni au traitement des sources écrites, c'est très excitant, non?
Très très excitant, et c'est le challenge que je voudrais faire une fois que je rentre à Kinshasa, pour essayer de mettre en avant cette interdisciplinarité dans les sciences.
Igor Matonda Sakala, vous venez de défendre une thèse de doctorat à l'université de Gand. Évidemment, l'organisation de cette défense a été relativement complexe puisque c'est une thèse en co-tutelle de l'université de Gand et de l'université libre de Bruxelles. Et en même temps, c'est une thèse qui a été conçue à partir de vos travaux de recherche à l'université de Kinshasa. Donc autour de ce travail, il y a trois universités, deux européennes et une africaine qui se trouvent représenter. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec